Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette édition, la ville de Kamina se métamorphose à moins de 24 heures de l'arrivée du président de la RDC dans le Olomami. Les habitants sont stupéfaits de constater que depuis quelques jours, l'eau et l'électricité sont devenues stables, contrairement à la situation habituelle avant cette visite. Une dizaine de personnes incarcérées à la prison centrale de Kindu sont atteintes de la varicelle. Les autorités sanitaires du Maniema rassurent toutefois que des dispositions sont prises pour contenir la maladie. Dans l'est de la RDC, les femmes, les jeunes et les communautés continuent de subir les conséquences de l'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. Le représentant pays des UNFPA en RDC revient de cette région. Alain Akpadji livrera son constat ainsi que les projections de son organisation pour répondre à ces défis. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu. Nous sommes mercredi à Kamina, dans la province du Olomami. À quelques heures de son arrivée, les autorités locales multiplient les initiatives afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Sur place, la population nourrit de nombreuses attentes et espère que certaines de ses préoccupations majeures trouveront des réponses à l'occasion de cette visite présidentielle. Des détails avec Jean Gandou.
C'est la première fois que Félix Tshisekedi foulera le sol de Kamina depuis sa dernière élection en 2023. À l'approche de cet événement, les autorités ont mobilisé la population pour des travaux d'assainissement de la ville. Coup de brosse par ici, coup de balai par là, les principaux carrefours et ronds-points de Kamina sont nettoyés et aménagés pour la circonstance. Pour de nombreux habitants, cette visite constitue une occasion unique de soumettre au président de la République les principales difficultés auxquelles est confrontée leur province.
La réhabilitation de routes et que chaque famille puisse avoir accès à l'eau.
La réhabilitation des infrastructures routières qui favorise la création d'emplois et le soutien à l'entrepreneuriat.
Il y a des attentes au niveau de l'électricité.
Certains habitants de Kamina se disent d'ailleurs surpris de constater que depuis l'annonce de la venue du président de la République, les coupures intempestives d'électricité ont considérablement diminué, tandis que l'eau coule régulièrement au robinet. Selon les autorités locales, le séjour de Félix Tshisekedi à Kamina sera notamment marqué par l'inauguration de l'usine de captage et de traitement d'eau de l'Ovoï installée dans le quartier Congo. Après son étape de Kamina, le chef de l'État se rendra à Kanyamakassese, toujours dans la province du Olomami, où il procédera également à l'inauguration de plusieurs ouvrages réalisés par les anciens délinquants appelés bâtisseurs enrôlés dans le service national.
Merci beaucoup Jean Gandou. Nous allons quitter Kamina pour nous rendre au niveau des Matadi. Plus aucun avion ne décolle de l'aéroport national des Chimpi depuis plusieurs années. Cette infrastructure inaugurée en 1955 est aujourd'hui à l'abandon. Sa route d'accès longue de 4 km à partir de la route nationale numéro 1 est fortement dégradée. Quant à sa piste qui s'étend sur 1570 mètres, elle n'a jamais été asphaltée. Une situation qui contraste avec les rôles stratégiques des Matadi, chef-lieu de la province du Congo central qui abrite les principaux ports maritimes de la RDC. Des détails avec vous, Élise Kavira.
À peine quitté la route nationale numéro 1, le décor est planté. Un épais nuage de poussière accompagne les véhicules qui prennent la direction de l'aéroport national des Chimpi. Sur près de 4 km, la route en terre est marquée par des nids de poules et des signes visibles de dégradation. Pourtant, l'aéroport national des Chimpi constitue la principale porte d'entrée aérienne de la ville de Matadi. Construit entre 1952 et 1954, il a été inauguré en 1955 avec l'atterrissage d'un avion Douglas C-4 transportant à son bord le roi Baudouin de Belgique. Pendant de nombreuses années, cet aéroport a joué un rôle stratégique dans les liaisons aériennes entre le Congo central et le reste du pays, contribuant ainsi au développement des échanges et au désenclavement de la province. Plus de 70 ans après sa mise en service, sa piste longue de 1570 mètres est toujours en latérite, un revêtement de terre rouge compactée. Entre routes d'accès dégradées, infrastructures vieillissantes et activités aériennes à l'arrêt, cet aéroport reste loin des standards attendus pour une ville d'une telle importance économique et stratégique. Malgré les multiples annonces et promesses de réhabilitation formulées au cours des années, les changements concrets se font toujours attendre. L'aéroport de Chimpi à Matadi attend toujours sa modernisation. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Et puis la prison centrale de Kindu est confrontée à une épidémie de varicelle. L'alerte est donnée par une structure de la société civile spécialisée dans la défense des droits de l'homme à la suite d'un constat effectué le 24 juillet dernier par l'abbé aumônier de la prison. La situation a ensuite été confirmée par la division provinciale de la santé qui a transmis aux autorités provinciales un rapport d'évaluation ainsi qu'un état de besoin pour une prise en charge adéquate selon le ministre provincial de la santé de Maniema. Une dizaine de détenus sont actuellement atteints par la maladie. Le docteur Alexis Kingombe Chomba assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour soigner les prisonniers malades et limiter la propagation de la varicelle au sein de l'établissement pénitentiaire. Nous l'écoutons au micro de Florence Kizalunga.
Oui, effectivement, les cas de varicelle sont confirmés dans la prison centrale de Kindu. Depuis la semaine passée, nous avons notifié 12 cas que la division provinciale est en train de prendre en charge. Donc, on a commencé par le bureau hygiène. Le bureau hygiène est descendu là-bas. Et vous savez qu'il y a un problème. Les prisonniers ne se baignent pas par manque de savon, malgré que la régie des eaux est en train de fournir de l'eau là-bas. Donc, c'est un problème de propriété. Et la division provinciale est allée investiguer et ils ont fait l'état des besoins. Cet état de besoin, le gouverneur a répondu favorablement pour les soins des prisonniers. Le gouverneur a acheté les médicaments pour la prise en charge, ce qui nous a permis aussi de séparer ceux qui sont malades et à ceux qui ne le sont pas. Les médicaments sont là disponibles et le gouverneur de province a acheté pour la prise en charge de ces malades en prison centrale. Par rapport à d'autres malades, dernièrement, on a restreint les cas de la tuberculose. On a dépisté quelques prisonniers et ils sont pris en charge. Parce que vous connaissez que le traitement de la tuberculose est gratuit et ils sont en train de prendre les médicaments.
Alors que l'épidémie d'Ebola continue de mobiliser les partenaires de la RDC, une délégation d'experts britanniques en santé a récemment séjourné à Kinshasa. Selon un communiqué publié lundi par l'ambassade du Royaume-Uni en RDC, cette mission visait à échanger avec les autorités congolaises sur les capacités des préparations et des ripostes à l'épidémie, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération scientifique. Les détails sur cette mission avec Jocelyne Moussaou.
Des échanges sur la riposte à Ebola, la surveillance des maladies et les capacités de réponse aux épidémies, c'est l'essentiel des discussions qu'a eu à Kinshasa une délégation d'experts britanniques de la santé avec les autorités congolaises, les partenaires humanitaires et des responsables de la santé. Les experts ont notamment participé à une table ronde à l'Institut national de recherche biomédicale avant de visiter les laboratoires de l'INERB ainsi que l'hôpital du Cinquantenaire afin d'évaluer les dispositifs de préparation existants. Selon le communiqué de l'ambassade du Royaume-Uni, cette mission a permis d'identifier de nouvelles opportunités de coopération scientifique et technique pour renforcer la réponse sanitaire face à Ebola. Londres indique avoir déjà mobilisé 21 millions de livres sterling, soit près de 28 millions de dollars américains, pour soutenir la riposte en RDC, notamment dans la recherche clinique, le développement des vaccins et les technologies de diagnostic rapide.
Nous nous retrouvons maintenant à Ituri où les 13 heures passées de 9 minutes. Les tracasseries militaires continuent d'être rapportées sur plusieurs axes routiers de la province. C'est notamment les cas de la route Bunia-Bogoro, longue d'une vingtaine de kilomètres, où conducteurs et taximen moto dénoncent les paiements imposés à presque chaque barrière. Pourtant, la semaine dernière, le gouverneur militaire de l'Ituri avait ordonné le démantèlement de toutes les barrières illégales. Sur le terrain, la réalité semble tout autre. Notre reporter Martial Kizabiamungu a parcouru ce lundi la route Bunia-Bogoro et nous propose ce reportage.
À bord de notre véhicule, nous quittons Bunia à direction de Bogoro. À peine 9 km parcourus et que déjà s'adresse le premier point de contrôle à Mbogo. Ici, les taximens moto ralentissent, sortent quelques billets de leur poche et remettent directement 500 francs congolais aux militaires présents sur place avant de reprendre la route. Nous poursuivons notre trajet. Quelques kilomètres plus loin, à Nyakiro, même décor, même pratique. Derrière une corde servant de barrière, un militaire marque chaque moto à l'aide de feutres après perception de l'argent exigé. Les passages n'est accordé qu'après paiement. Pour les usagers, ces prélèvements répétés deviennent insupportables. Nous sommes fatigués avec les tracasseries des militaires. Ils ont érigé plusieurs barrières sur la route. Le travail des militaires est de protéger la population et ses biens, pas demander l'argent. Ils demandent aux autorités provinciales d'insérer un suivi rigoureux afin que cette mesure soit effectivement appliquée sur le terrain. Les mêmes constats sont également rapportés sur la route nationale numéro 27, notamment sur les tronçons Komanda Bounia et Bounia Magui, selon plusieurs témoignages recueillis. Martial Kizapiabongou, directeur de Bogoro, Radio Okapi.
Merci Martial. Nous partons vers Kananga, où les transporteurs à vélo communément appelés Bayanda, actifs dans les territoires du Kassai central, dénoncent les nombreuses tracasseries fiscales auxquelles ils sont confrontés lors de l'acheminement de leurs marchandises vers Kananga. Ils pointent notamment la multiplicité des taxes ainsi que les nombres élevés des services de perception présents sur leur itinéraire comme instigateurs de cette situation. Pourtant, ces transporteurs jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement de la ville en produits des premières nécessités en provenance des différentes localités de la province. Ils sollicitent l'intervention des autorités provinciales afin de mettre fin à ces pratiques et de leur permettre de circuler et d'exercer leurs activités dans de meilleures conditions. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
À vélo, ils parcourent parfois des dizaines de kilomètres pour approvisionner Kananga en produits des premières nécessités. Mais leur trajet est loin d'être facile. Les transporteurs à vélo, communément appelés Bayanda, dénoncent la multiplication des taxes et des postes de contrôle sur les routes qu'ils empruntent. Ils accusent la Direction Générale des Recettes du Kassai Central d'être à l'origine de ces tracasseries. Sur les 63 kilomètres qui séparent Mbemba de Kananga, ces transporteurs affirment traverser une dizaine de postes de perception. Une situation qui, selon eux, complique considérablement leur activité. Louis Moulumba, l'un de ces transporteurs, raconte qu'il y a plusieurs postes sur la route et à chaque poste, ils sont obligés de payer pour obtenir des documents, même constat pour Jacques Kabeya. Ces transporteurs affirment que, d'un poste à l'autre, les agents exigent de nouveaux documents ou le paiement d'une caution pour laisser passer le marchandise.
Il y a toujours des conditions pour ceux qui ont les documents et pour ceux qui n'en ont pas. Lorsque vous avez les documents, le contrôleur vous dit que ce sont des faux documents dans le but de vous soutirer de l'argent.
Contactées, les autorités de la DGRCAC ont indiqué qu'elles se prononceraient prochainement sur ces accusations. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
À Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les activités socio-économiques sont restées paralysées entre 7h et 11h du matin de ces mardis. Les habitants avaient été appelés à participer à une marche pacifique organisée par une plateforme se présentant comme la société civile plurielle et les forces vives du Nord Kivu. Une manifestation qui s'est achevée au quartier général de la MONUSCO où un mémorandum a été remis. Détail avec vous, John Chubwabwa.
Depuis 7h heure locale jusqu'à 11h, boutiques, marchés et de nombreux commerces sont restés fermés dans la ville de Goma. Le transport en commun ainsi que la circulation des véhicules privés ont également été fortement perturbés. Certaines personnes qui tentaient de se rendre à leur lieu de travail ont été stoppées au niveau du stade de l'unité. Plusieurs véhicules, tant privés que des transports en commun, ont été immobilisés jusqu'à la fin de la manifestation. L'appel à la mobilisation, attribué à une plateforme se présentant comme la société civile plurielle, et les forces vives du Nord Kivu avaient été largement relayées dans la veille par le cadre des bases. Selon ces derniers, cette initiative s'inscrivait dans une décision prise par les autorités des faits de l'AFC M23. Si les organisateurs ont présenté l'événement comme une marche pacifique, certains habitants interrogés ont regretté son caractère qu'ils jugent contraignant. Selon la déclaration remise à la MONUSCO, la manifestation visait notamment à dénoncer les sanctions imposées à certains dirigeants de la FC M23 ainsi qu'à exprimer une opposition au projet de réforme de la Constitution de la RDC, entre autres. Pour rappel, le 14 juillet dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ajouté à sa liste des sanctions Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que 5 autres responsables des groupes armés, dont un cadre du M23.
Parlons de ces écoles incendiées en l'espace d'un mois dans les territoires de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Là, nous parlons des 10 écoles au minimum. Si les autorités éducatives accusent des jeunes délinquants d'être à l'origine de ces actes, d'autres sources évoquent plutôt la colère d'une partie de la communauté dû au retard dans l'inauguration des écoles construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Des détails sur cette affaire avec vous, Jean Gandou.
Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs bâtiments scolaires, notamment des salles de classe avec leurs charpentes et toitures, ont été entièrement détruits par les flammes. Le chef de la sous-division de l'éducation nationale de Nyonzou condamne fermement ces actes qu'il qualifie d'ignobles. Mouamba Saloumou attribue ces incendies à des jeunes délinquants et souligne qu'il s'agit d'une situation sans précédent dans les territoires de Nyonzou. Il indique par ailleurs qu'il a enregistré au moins l'incendie de 10 écoles et constaté que c'est la délinquance, l'ivresse et l'utilisation des chanvres qui sont à la base de ces incidents. Cependant, d'autres sources indiquent que ces actes sont les résultats des frustrations pour la simple raison que les nouvelles écoles modernes construites dans le cadre du programme de développement des 145 territoires achevées depuis plusieurs mois ne sont toujours pas opérationnelles, ce qui alimente la colère de la communauté. Une occasion pour le sous-proved de demander aux autorités de procéder à l'inauguration de ces écoles. Mouamba Saloumou demande par la même occasion aux personnes de bonne volonté et à des partenaires de venir en aide pour la réhabilitation de certaines écoles incendiées.
Mesdames, Messieurs, nous allons à présent terminer par cette brève avant de prendre l'actualité internationale pour parler de l'inhumation des victimes de l'accident survenu samedi dernier près du village d'Engeleka dans le groupement Mukabe Kassari, chefferie des Bayeke, territoire de Louboudi, qui a débuté d'ailleurs lundi. Le premier corps mis en terre sont principalement ceux dont l'état était en décomposition déjà avancée. Les autres victimes devraient être inhumées. Nous sommes ce mardi après-midi. Cette cérémonie se déroule en l'absence de membres des familles des victimes. Par ailleurs, les camions impliqués dans l'accident est toujours couché sur les lieux du drame, faute des camions remorques capables de les relever.
Actualité internationale.
Le ministre ougandais de la Santé a déclaré ce mardi que le pays était exempté d'Ebola après la dernière épidémie de cette maladie virale hémorragique qui a infecté 20 personnes et en a tué 2. L'Ouganda a subi de multiples épidémies d'Ebola depuis 2020, date à laquelle il a enregistré sa première épidémie.
L'invité.
Dans l'est de la RDC, les femmes, les jeunes et les communautés continuent de subir les conséquences de l'insécurité de l'épidémie d'Ebola. Au terme d'une mission de quelques jours au nord Kivu à Ituri, les représentants pays du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, en RDC revient sur les principaux constats, les besoins prioritaires exprimés par les populations et les engagements de son organisation dans cette région. Alain Akpadji est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Papi Martial Mukeba.
Alain Akpadji, bonjour.
Bonjour.
Après votre mission dans la région des Beni au Nord Kivu et à Bunia en Ituri, quel est le principal constat que vous retenez sur la situation des femmes, des jeunes et des communautés confrontées à la fois à l'insécurité et à l'épidémie d'Ebola?
J'ai noté une augmentation énorme des besoins en matière de protection, en matière de continuité des services de santé sexuelle et de la reproduction. Et si les actions nécessaires, les investissements nécessaires ne sont pas multipliés, qu'il y a un risque vraiment d'affaissement. L'environnement en matière de protection des femmes, des jeunes et des communautés est en train de se fragiliser. Et vous pouvez le constater par le nombre élevé de déplacés internes. On parle de près de 2 millions dans le Nord Kivu actuellement et près d'un million dans l'Ituri, dont la conséquence directe, c'est l'augmentation des violences sexuelles utilisées par les groupes armés comme Abdeker. Les femmes et les filles sont violées. Au niveau des questions de la santé sexuelle et de la reproduction, à Oicha par exemple, on a vu un engorgement des maternités lié justement à cette question de déplacement. Nous avons vu également les survivantes de viols, de violences sexuelles, qui ont exprimé des préoccupations très très importantes. Quand nous prenons l'exemple de Bunia, nous avons constaté une augmentation du nombre de décès maternels. Nous enregistrons depuis le début de l'épidémie près de 109 cas de décès maternels qu'on pourrait vraiment éviter. Et nous avons constaté malheureusement une baisse de taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié et ce chiffre à autour de 15 000.
Au cours de votre mission, quels sont les besoins les plus urgents qui vous ont été exprimés par les autorités sanitaires, les partenaires et les populations, notamment en matière de santé reproductive et de protection des femmes?
À Oicha, par exemple, les besoins immédiats qui ont été clairement exprimés, c'est de voir comment rapprocher d'eux les services en matière de santé sexuelle et de la reproduction, ainsi que les services en matière de protection, de lutte contre les violences basées sur les genres, ainsi que la lutte contre les exploitations et abus sexuels pour augmenter l'engagement communautaire. Et ceci a été clairement exprimé par les autorités locales de pouvoir mettre en place au niveau des sites, de déplacer par exemple des cliniques mobiles pour assurer que les services essentiels puissent être fournis à ces communautés-là. Nous avons le renforcement des capacités du système de santé pour assurer la continuité des services en matière de mortalité maternelle et mortalité infantile et prise en charge systématique des viols. Nous avons des besoins de multiplier le nombre de maternités parce que les maternités qui étaient construites avant la crise se retrouvent dans des situations de débordement total. Vous voyez un lit où il y a deux ou trois femmes avec les enfants et ce n'est pas des conditions favorable. Nous avons les besoins en matière de disponibilité des sages-femmes et donc ce sont des choses sur lesquelles l'UNEPIE ensemble avec les autres acteurs du système des Nations Unies ainsi que les partenaires techniques et financiers, nous allons travailler pour apporter des réponses de façon durable.
Vous avez notamment remis des ambulances aux hôpitaux de Beni et de Ouicha. Au-delà de cet appui, quel engagement concret l'UNFPA attend-elle prendre pour accompagner durablement cette région du Nord Kivu?
Nous voulons multiplier maintenant les maternités. C'est l'exemple de ce que nous sommes en train de faire dans l'hôpital général de Beni où la construction d'une nouvelle maternité est déjà envisagée avec l'apport de nos partenaires techniques et financiers, le FCDO du gouvernement britannique, le Fonarev que je remercie. Nous travaillons aussi sur un plaidoyer avec le gouvernement et les parties prenantes pour que les budgets au niveau du gouvernement provincial soient désormais alloqués pour ce processus de mécanisation des sages-femmes.
Dernière question, en terminant votre mission Nord Kivu et Anitouri, quel message souhaitez-vous adresser aux autorités congolaises, aux partenaires internationaux et aux habitants des sept régions qui vivent depuis des années entre conflits armés et crises sanitaires?
De façon spécifique pour les autorités, je voudrais qu'elles continuent de renforcer les mesures de protection et de sécurité pour le personnel humanitaire. Donc au niveau des habitants, je voudrais leur dire de quoi que l'espoir est possible. Les partenaires techniques et financiers, de les remercier aussi pour tout ce qui est fait jusqu'à présent, mais de lancer un message, c'est maintenant qu'il faut agir. Et le coût de l'inaction est très très élevé. Et si nous n'agissons pas maintenant, surtout par rapport à Ebola, nous risquons une autre crise après.
Allez, à quoi dit merci.
Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, nous aussi nous disons merci. Jason Siala était à la partie technique, supervision de Jean Gandou dans une coordination de Élisée Chikota. René Linti Bonera, j'étais à la présentation.